Écoute. C'est quoi? Non, pas encore, il y a longtemps. Sinon je la prendrai en grippe. Bien, alors nous étions arrivés à la dernière des références sur ce sujet, qui se trouve donc dans le traité de Nédarim. Et dans le traité de Nédarim, la Gemara a cité un verset. Si je me souviens bien, c'est le chapitre 21 de Bemidbar. Et ça doit être le dernier verset, le verset 20. Vous voyez, je ne suis pas le docteur Prince, mais... Et alors là... Là, c'est le verset du chapitre qui indique toutes les étapes de la génération du désert entre l'Égypte et Israël. Et déjà dans la Gemara, bien sûr, aussi dans les Midrashim, on étudie la signification des noms de chacune de ces étapes. Et de cette signification, toute une série d'enseignements ont été tirés des degrés de l'ascension qu'il y a dans cet espace de transition qu'est le désert, et où la Torah a été reçue, vous souvenez, pour, d'une part, se débarrasser complètement de l'influence. Et on n'est pas arrivé à s'en débarrasser complètement, elle dure jusqu'à la fin des temps, sous forme de remise en jeu des tendances qui nous sont décrites dans les récits de la sortie d'Égypte elle-même. Et c'est nécessaire d'avoir cette écho, là. Ah, attends. Et puis, d'acquérir la possibilité de la proximité avec la sainteté, la Kedusha, du monde nouveau dans lequel l'histoire d'Israël entre. Je crois que nous avons eu cette analyse hier matin. Okay? Il y a un Yesh ancien, une manière d'être ancienne, d'une expérience, d'où la foi d'Israël a procédé, et c'est l'existence de l'Égypte. C'est un récit très important pour la Torah, la relation entre Israël en constitution d'identité avec la civilisation du temps, la grande civilisation du temps, qui est la civilisation égyptienne. Elle a échoué, et il y a un accouchement d'Israël, si j'ose dire, j'emploie les termes du Midrash, du dedans de cette matrice de l'universel humain tel qu'elle était en Égypte. Et avant d'accéder au monde d'après, qui commence avec la rentrée dans le pays de Canaan, avec Josué, il y a ces 40 ans du désert, où différentes étapes vont mener de ce Yesh ancien au Yesh nouveau, en passant à travers le Haïm nécessaire de transition. Yesh, ça veut dire « il y a ». Haïm, ça veut dire le manque du « il y a ». Il n'y a pas. Et donc, comme je vous le disais, ce texte étudie la signification de ces différentes étapes. Et là, un verset que je vous rappelle, nous sommes au début de la citation, les Hébreux ont campé, décampé, décampé, campé, Mimidbar Matana, du désert à un endroit qui s'appelle Matana, Matana ça veut dire le don, ou Mimatana Nachaliel, de Matana à Nachaliel, Nachaliel ça veut dire l'héritage de Dieu, ou Minachaliel Bamot, et de Nachaliel à un endroit qui s'appelle Bamot, et Bamot ça veut dire les hauts lieux. Vous savez, c'était l'habitude des anciennes religions d'installer leurs hôtels sur des tertres, sur des hauts lieux. Bamot, Bama, c'est un hôtel, le terme étant en général employé dans la Bible pour dire les hôtels des religions païennes. Hôtel, A-U-T-E-L. Okay. Je crois que c'est le verset 20, je vais vous le chercher tout de suite. Okay. Verset 20 du chapitre 21 de Bemidbar. Et il y a là un dévoilement du caractère, attendez, je cherche un terme précis, je vais dire kabbaliste, de la forme du récit de la Torah, depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez, les mots ne sont pas neutres. On a des noms qui désignent des endroits, et ce sont des lieu géographique nommé ainsi. De la même manière que Jérusalem s'appelle Jérusalem, que Haïfa s'appelle Haïfa, et que Paris s'appelle Paris, eh bien, Nachaliel s'appelle Nachaliel, Bamot s'appelle Bamot. Et ces noms, cependant, enveloppent toute une signification qui ne peut être lue, dévoilée, décryptée, connue, comprise que dans l'enseignement de la Kabbalah. C'est une catégorie de Talmidei Chachamim que la Gemara appelle les Dorshei Reshimot, ou Dorshei Shemot parfois, ceux qui sont capables de comprendre la signification des noms. Bon, c'est un sens pour elle-même qui fait partie de la Kabbalah. De temps en temps, comme ça, dans le récit biblique, il y a des versets qui n'ont pas de pshat, des versets qui n'ont pas de possibilité de traduction pour ignorants. Vous avez compris ce que je veux dire. Et alors, ce sont des petits clins d'œil que ce texte demande à être étudié à un autre niveau. D'ailleurs, Michel Prince a fait allusion, pour ceux qui étaient là hier soir, où nous avons eu une soirée très dense, un peu trop longue à cause du temps, mais pas du tout à cause des contenus, a fait allusion à, de nouveau, à ces différents niveaux de lecture. Et là, nous avons un exemple assez privilégié. Alors, je continue. Et après, Bamot, c'est... une minute, parce que c'est pas Rome, c'est dans une autre prononciation, Rhume. Je vous cherche le verset. En attendant. Voilà, vous avez Deutéronome 21-20, c'est bien ce que vous avez dit. Umibamot Hagai. Gai, c'est une vallée. C'est plus qu'une vallée, c'est... Le nom m'échappe. Une gorge profonde. Oui, c'est cela, encaissée. Vous avez par exemple Gehinom, la vallée de la Géhenne, mais on traduit la vallée. Vous avez Sharagai, près de Latroun, dans la route qui monte à Jérusalem. Alors, vous voyez, de Bamot à Gai, minuscule université, Asher bis de Moab, qui se trouve dans les champs de Moab. Alors, il y a aussi une indication importante. Roche à Pisga, au haut de la colline, Venish Kafa, Alpene, Hayeshimun. Et c'est, il y a une possibilité, un poste d'observation, les Hashkif, ça veut dire observer de haut en bas, Alpene Yeshimun, sur la lisière du désert où soufflent les vents de sable, le Yeshimun. Vous connaissez le mot français Simun, le Simun, le Khamsin, top. Et voilà donc que la Gemara va nous dévoiler la signification de ces différentes étapes. Elle va nous décrire une aventure de celui qui est doué de la Torah, mais qui est tombé dans le piège de l'orgueil. Vous vous rappelez du thème ? On est interviewé hier. Enfin, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Est-ce que ces noms ont été donnés par les Bnei Israël ou est-ce qu'ils étaient antérieurs ?
Ces noms ne sont cités par la Torah. Et pour répondre à votre question, ils sont antérieurs. Hein ? Je ne sais pas comment dire ça. Voilà, la ville d'où Abraham est sorti s'appelle Ur-Kasdim. Kasdim, c'est les Kasdéens. Et voilà que le nom de leur capitale, c'est Ur. Le Midrash dit que c'est la fournaise dans laquelle Abraham a été jeté, vous vous rappelez ? Et Ur, ceux qui connaissent un peu l'arabe ou l'araméen, savent que ça veut dire la flamme, le feu, et non pas la lumière. Or, la lumière, Ur. Vous avez un doublé qui est Nour, que vous retrouvez aussi en arabe. Et en araméen, c'est Noura. Et alors voilà, le Midrash explique que c'était une ville de four crématoire. Okay, alors on pourrait se demander, c'est pas a posteriori que la Torah dit qu'elle s'appelle Ur, Ur en casdé, vous savez, quand on fait le mot croisé. Là. Et en fait, cette ville s'appelait comme ça. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça me semble tellement... tellement évident que là, vous découvrez quelque chose d'important. Il y a une programmation de la réalité, même dans les noms qui désignent. Et les noms ne sont pas contingents. Okay. Si. Bon, il y a des exemples des noms de France qui me viennent. Je voudrais simplement faire allusion à quelque chose que j'ai lu il y a très très longtemps. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse, enfin fermer la parenthèse, parce que ça n'intéresse pas. J'ai lu une fois une étude... Vous savez, j'ai un grand défaut, c'est que je n'ose pas refuser quand on m'emprunte des livres. Alors, je ne les revois jamais. Mais il y a une consolation, je crois que c'est dans un commentaire du Talmud, au moins c'est des livres qu'il a volés. Mais c'est interdit quand même. Hein. Mais là, non, je crois qu'il y a de la kleptomanie spirituelle. Alors, ce livre, je ne me rappelle même plus le titre, mais l'auteur. L'auteur, c'est Stefan Milodz, qui était un intellectuel lituanien. qui a fait une étude sur les Basques. Vous savez qu'il y a un mystère de l'identité basque, top. Pas seulement ça, et puis il avait établi bon, qu'il y avait une sorte de rameau humain qui s'est dispersé, dont on retrouve des analogies chez les Finlandais, les Hongrois, les Basques, les Berbères. Les Berbères kabyles. Okay. Et alors, il établit qu'il y a une analogie profonde avec l'identité hébraïque, en parlant des Basques. Je vous cite en passant que, pour lui, les Ibères, c'est les Ivrim. Les Ivrim. Bon, si c'est pas exact, si c'est pas vrai, c'est juste, ou si c'est pas juste, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est joli. Alors, il donne une quantité d'indications en montrant que on retrouve les noms de localités dans l'Andalousie en particulier, qu'indique la Torah dans les noms du jardin d'Éden, de l'Éden. Donc, je ne vous donnerai pas les détails, ça prendrait trop de temps. Et puis... Ben, voilà un exemple. Or, malgré tout, est-ce que c'est par hasard que énormément d'indications nominales de la tradition de la Kabbalah se situent par rapport à l'Espagne? Comme vous savez, la Kabbalah est une tradition sfaradite. Bon, c'est un sujet très, très, très large. Que le jardin de l'Andalousie, ce serait le jardin des pommes d'or, du jardin de la connaissance des mille Grecs. Les colonnes de Gibraltar et les colonnes d'Hercule, oui. Et puis, il y a des choses extrêmement frappantes. Bon, sans y accorder plus d'importance que ça peut représenter, il en profite pour citer énormément de correspondances de ce genre sémantique, avec énormément de traditions de peuples qui se prétendent mystiquement, peu importe, culturellement, étant le véritable Israël. En particulier, il étudie les traditions de l'Angleterre à ce sujet. Je ne sais pas si un jour je vais citer des choses. Il y a des choses assez énormes. Je vais en citer une et on revient au texte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les noms ont une signification et que... il arrive parfois qu'il faille attendre énormément de temps dans l'histoire pour que l'histoire humaine rejoigne cette signification. Il y a énormément de midrashim, par exemple, qui expliquent très exactement ce que c'est que l'événement de la sortie d'Égypte en étudiant le mot Mitzrayim. Or, Mitzrayim s'appelle Mitzrayim avant la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est bien clair? Donc. Alors, à propos de l'Angleterre, ça m'avait frappé. C'est que il y aurait la tribu de Dan, et d'ailleurs la tribu de Dan, on en retrouve des traces dans beaucoup de traditions de peuples inattendus. J'ai une élève à Jérusalem, qui est une coréenne, qui a été envoyée par son gouvernement pour se spécialiser dans l'éducation des handicapés, et puis qui est depuis 3 ans à l'université là-bas, mais qui a décidé de devenir israélienne, parce que c'est pas qu'elle ne veut pas retourner en Corée, mais elle a décidé de faire venir sa famille, c'est qu'elle veut rester en Israël. Donc, et pour ça, donc, elle veut être juive, et tout ça, c'est très sincère, ça prendra du temps, mais c'est très sincère. Et on aura de beaux petits-enfants métis, et alors, il y en aura un qui sera peut-être chef d'état-major, j'en sais rien. Et alors, elle me raconte qu'ils ont des mythes comme ça, qui ressemblent beaucoup à des traditions juives. Et puis qu'ils ont une tradition que l'ancêtre s'appelait Dan. Allez chercher voir de quoi il s'agit, c'est une autre histoire. Alors voilà, donc la tribu de Dan, au moment de son exil, en tout cas une partie, parce qu'on la retrouve dans beaucoup d'endroits, se serait installée en Grèce, et il y aurait une trace dans la peuplade des Danaïens. Vous connaissez cette peuplade grecque des Danaïens? Timéo, Danaos, top. Il a fait. Et le cheval de Troie, qu'est-ce? Et puis ensuite, elle aurait remonté la vallée du Danube, serait arrivée au Danemark et aurait conquis l'Angleterre. Ce qui fait que les Anglais se réclament comme étant des hommes de l'Alliance, et ça se dit British, l'homme de l'Alliance. Bon. Alors, vous savez que les rois d'Angleterre se réclament pour être... Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que finalement, la Bible a été diffusé dans le monde entier par les Anglais, et qu'on a reçu Eretz Israël de la main des Anglais. On les a aidés un peu, mais en fait... Bon, vous voyez, il y a quand même des choses bizarres. Hein. Tout à l'heure, quand vous parlez de l'humour, vous avez fait allusion à la Shoah, et je pense que ça va... Mais ça fait plusieurs fois, j'y crois. C'est-à-dire, nous avons une correspondance frappante dans le Midrash. La sortie d'Abraham d'Ur-Kazim, c'est notre histoire. Et comment le Midrash, 4000 ans avant, nous dit, ben voilà, on sort du feu. Je pense que c'est clair. Bref. Et encore une fois, j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai étudié ces Midrashim quand j'étais enfant, au Talmud Torah, bien avant la dernière guerre mondiale. Et on nous décrivait ce qui se passait dans les camps de concentration de l'Égypte, au temps de la sortie d'Égypte. Et même en fond, on réagissait en se disant, bon, ben, imagination orientale du Midrash. Et puis lorsqu'on a vu que ça s'est passé en Allemagne, que ça s'est passé en Europe, on s'est dit, tiens, on s'était trompé. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'il faut étudier le Midrash, c'est-à-dire pour être averti, ces choses-là, ça peut arriver. Et je crois qu'il y a d'ailleurs, dans la culture contemporaine, énormément de révisions, de jugements sommaires sur la tradition, que c'était des légendes, et bien voilà, c'est pas des légendes, ça se passe comme ça. Voilà, c'est clair.
Pardon. J'ai une tante assez âgée qui m'a parlé que tout à fait au début du siècle, ceux qui étudiaient la Torah, pas prévoyaient, mais ça correspondait à une certaine...
Nous avons
non, c'est pas de l'ordre du pressentiment, c'est de l'ordre de la connaissance.
Non, non, nous avons les livres là, et ce sont aussi des livres de Tunisie que je connais. Top. Et il y avait une grande tradition kabbaliste en Tunisie qui s'est évanouie dans les premières dizaines d'années du XXe siècle. C'était rattaché un peu à l'école de Kérouan, mais c'était des grands maîtres. Et puis ça s'est évanoui. Et aujourd'hui, leurs descendants s'occupent de cache-route à Paris, comme vous le savez. Top. Ça leur cache la route. C'est un phénomène sociologique très, très joli. La cache-route française et tunisienne. Vous avez remarqué ça? Donc, rapidement, parce qu'on a à revenir au texte.
Qu'est-ce dit-on pour Kasdim, mur des Chaldéens? Il y avait un autre.
Les Kasdim. Kasdim, c'est les Chaldéens.
C'est pas les Chaldéens?
C'est la civilisation chaldéenne.
Oui, mais Serge, pourquoi dit-on pour des Chaldéens? Il y avait un autre cours, une autre ville pour.
C'est possible.
Parce que, alors, je me pose cette question parce que, à ce moment-là, les Chaldéens étant des astrologues, ils seraient sortis des pays de l'astrologie.
Ah, ça, dans tous les cas. Vous savez, tous les paganismes de l'Antiquité étaient des religions astrologiques. Et à l'origine, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, le christianisme est une religion sur mythes astrologiques. Il y a énormément de versets de l'Évangile qui sont incompréhensibles aux théologiens chrétiens eux-mêmes si on ne les décrypte pas en catégorie astrologique. Bon, j'en dirai pas plus, c'est pas le sujet. Donc. Par exemple, il y a plusieurs chambres. Les Hadarim. Top. C'est tout du Midrash. Non. Les Hadarim, mais j'ai eu tort de faire des coursiers. On revient donc au texte. Alors, vous voyez, nous allons lire donc l'histoire de cette aventure d'un homme de la Torah, mais qui, j'anticipe pour aller vite, qui, aidé par cette nature de don de la Torah qui est donnée à celui qui le mérite, va avoir le vertige, le vertige de cet émerveillement. Je possède la connaissance et tombe dans le piège de l'orgueil, ce qui lui arrive. Alors nous allons reprendre ça rapidement. Alors suivez ça attentivement parce que ça explique... Il y a énormément d'aventures qui se sont passées dans le monde juif lui-même, à travers le temps, et je crains que ça recommence. Alors, on continue. Vous prenez à la troisième ligne. Kivan, cher Oseadam et Hasmo Kemidbar, puisque l'homme se fait sa personne, son essence, ce fait, pronominal ou même plus essentiel, Kemidvar comme un désert, et vous voyez ce que ça représente. Je vous dirai deux thèmes à ce sujet. Le désert, c'est un endroit dans le monde qui ne fait pas partie du Yishuva Olam, dit le Maharal dans notre texte, du monde habité. C'est-à-dire, c'est ce monde-ci, mais sans ce que seraient les prérogatives de ce monde-ci, le monde habité. Et oui, cette idée de se priver de tout, cette expérience de s'être privé de tout qui rend disponible pour la grandeur de la Torah. Effectivement, c'est tout ce récit de cette histoire si difficile. On a un peuple à qui le prophète vient de dire « Tu vas sortir des camps de concentration, mais c'est pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. » Et tu te souviens des jardins persans d'Égypte, enfin vous comprenez l'image, effectivement, la situation d'Égypte était très riche, je ne sais pas si vous faites des pèlerinages, des voyages dans la vallée des rois là-bas, mais j'y suis jamais allé, mais je sais, par les images, c'est les traces d'une civilisation extraordinairement forte, et donc il devait y avoir une espèce d'opulence, d'abondance, de biens de consommation, comme on pourrait dire. Et alors, ce peuple, si j'ose dire, attiré par les promesses de la sortie du temps, finalement, où il se retrouve dans le désert. Vous voyez à peu près l'histoire. Okay? Qu'est-ce qui vous intrigue? Que j'ai dit la sortie du temps. Okay? Alors, ben, c'est très clair. Quand la sortie, c'est-à-dire au juif de la diaspora, vient rejoindre le pays où coule le lait et le miel. Vous n'avez pas vu ces affiches? Alors, on arrive là-bas, quand on est arrivé là-bas il y a 40 ans, qu'est-ce que c'était? Des cailloux, des ronces, et des moustiques et quelques fonctionnaires de l'Empire britannique. C'est un peu cette expérience de la sortie des lieux. Okay? Alors, il y a donc le fait d'avoir assumé, eu expérience de ce qui a été décrit dans les chapitres précédents, celui qui se met au plus bas pour accéder à cette définition que le Maharal a donnée de la Torah, le plus simple, l'intelligence la plus simple. Et pour cela, il faut mettre entre parenthèses son équation personnelle jusqu'au bout et se faire comme un désert. Bon, c'est la première idée. Deuxièmement, c'est le fait que la Torah qui va être révélée doit avoir une portée universelle. Elle ne peut pas être révélée dans l'ère de culture, de civilisation d'une parmi les nations. Or, ce qui unit le désert, c'est qu'il n'appartient à aucune nation en particulier. Bon, il est disputé entre l'Égypte et Israël depuis ce temps-là. Okay. La dernière manche, c'est l'Égypte qui l'a gagnée. J'ai dit la dernière, enfin, l'avant-dernière. Et puis, ça veut dire qu'il y a une expérience de vacuité des spécificités des cultures particulières de telle sorte que Israël soit disponible de recevoir la Torah pour l'universel. Oui, la Torah n'est pas donnée en Égypte, elle n'est pas donnée en Israël au moment de la sortie d'Égypte. Il y a des raisons a priori, a posteriori pour cela. Et puis, elle est donnée dans le désert. Alors, celui qui a réussi l'expérience du désert, Mimidbar Matana. On continue. Reprenez la troisième ligne. Kivan, chez Ose Adam et Ratsmo, Kamidbar, chez où Moufkar, vous voyez la notion de Hefker, okay, qui n'appartient à personne. Qui est un peu, il y a, je crois, ici un thème assez profond, qui est un peu un dévoilement d'une réalité de l'ordre du monde à venir dans ce monde-ci. Et qu'est-ce que vous avez comme mot après? Moufkar la colle. Moufkar la colle disponible à tous. Nitna lo haTorah. Alors la Torah lui est donnée. Oui, dans ces quelques mots, il y a ce thème très important. La Torah n'est donnée qu'à celui qui accède à cette expérience d'existence dans ce monde-ci, qui est de l'ordre du monde à venir. Et d'ailleurs, dans ces 40 ans du désert, ont été expérimentés les pressentiments du monde à venir. Je vous cite une référence que vous devez certainement connaître, qui est importante à ce propos. Nous avons, dès ce monde-ci, des expériences de pressentiment de l'être du monde à venir. Ah, mais je crois que nous en avons parlé à un des cours. Quelqu'un m'avait posé de ce côté-là une question sur la volupté. Je ne m'en rappelle plus. Depuis que le temple a été détruit, la volupté n'est plus ce qu'elle est. Ah, c'était vous, Ken. Eh bien, je l'avais cité. Nous avons un enseignement dans le Talmud, c'est que ces réalités ultimes, absolues, dont parlent les promesses, la prophétie, eh bien, et, par exemple, le monde à venir, le goût de la manne, nous avons eu expérience en témoignage dans les temps de révélation qui sont très exceptionnels et qu'on appelle les théophanies. La sortie d'Égypte, la génération de la sortie d'Égypte a été privilégiée. Elle a eu expérience du monde à venir dans ce monde-ci en pressentiment. peut-être le mot est faible, en plus que pressentiment. Je crois que chacun dans sa vie a au moins une fois, je ne sais plus si j'ai appris ça chez les philosophes ou chez les rabbins, enfin, ça doit être un médecin qui me l'a dit, au moins une fois, une expérience que seul un poète pourrait décrire, subitement, derrière toute cette monotonie des apparences de la vie qu'on vit, il y a une expérience de dévoilement. Il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on est sûr, il y a. Et puis, clin d'œil, ça recommence. Des gens privilégiés ont cette expérience-là au moins tous les ans, le jour de Kippour. D'autres plus privilégiés, à chaque fois qu'ils étudient, tous les jours. L'étude a pour objet de raviver ce souvenir du Sinaï. Ça se dévoile, il y a, et après ça se cache. On pourrait appeler l'étude à l'échelle individuelle le Sinaï portatif de chacun. J'ai dans mon expérience le fait que pour chacun, c'est à propos d'un verset ou d'un tournant de verset différent, un moment différent dans l'étude. Chacun a son, comme on avait dit, sa lettre dans la Torah, et elle se dévoile pour lui, il est sûr, et puis ensuite ça se cache. Et je crois d'ailleurs que c'est là que commence l'honnêteté de la sincérité de la foi, qui est de l'ordre de l'humilité, savoir que si un petit bout de Torah s'est dévoilé avec un sens du fulgurant de l'absolu, c'est vrai pour le reste, et faire confiance. Est-ce que c'est clair? C'est à la limite du mauvais goût de dire « je veux la démonstration sur chaque voyelle ». C'est une attitude de voyou. Je ne sais pas comment dire ça. Bon, vous avez compris ce que je veux. Et il faut, il suffit, mais il faut qu'une fois on ait eu. Il y a en mathématiques un type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par récurrence. Et vous utilisez ça dans cette attitude intellectuelle, spirituelle. Alors, Nitnalo Torah Bematana. Et c'est évident que cette expérience, c'est une expérience de grâce. C'est une expérience de cadeau, de don. Ça s'appelle Matana. Il y a d'abord Matan Torah. C'est bien clair. Et retenez ce point, parce que ensuite, le Maharal va nous dire que l'échec, à cause de l'orgueil, c'est au fond un fait d'ingratitude. L'ingratitude de ne pas avoir le courage de reconnaître que la connaissance de vérité que l'on a lorsqu'on s'occupe de la Torah nous a été donnée en cadeau. Et de feindre qu'elle procède du génie de moi qui pense, or ça c'est la philosophie. Alors je crois qu'on arrive à éclaircir bien ce problème. Est-ce que c'est clair? Top. Comme vous savez, la personne humaine est une synthèse très ambiguë, très paradoxale, très ambivalente, et puis on ne peut jamais juger. Un homme, Dieu seul peut juger, parce qu'il récapitule toute l'histoire de chacun, on ne peut jamais juger un homme ponctuellement sur un moment où il est comme ça, parce que peut-être avant-hier, après-demain, il sera juste le contraire. Et c'est pourquoi je ne veux pas vous citer de nom. Mais, encore une fois, il est indéniable que ça commence à imprégner la littérature juive contemporaine, intellectuelle, philosophique, surtout celle qui se réclame de la Torah. Ce que j'ai appelé dès la première conférence, une sorte d'amalgame de ces deux voies de recherche de la vérité, l'attitude du philosophe et l'attitude du Talmid Chacham. Je pense que c'est bien clair. Hein, Et alors, nous sommes un certain nombre de rabbins israéliens à être absolument déterminés à intervenir, mais alors à pieds joints. Parce que ça risque d'être une génération de gâchés. C'est clair ce que je dis. Alors donc, on retient ce mot de Matana. Cheneemar ou Mimidbar Matana. J'ai plus besoin de traduire. Ukivan finit nalo. Et puisque, si déjà, comme on disait en patouette algérien, ça se dit aussi en français, ça. Si déjà tu es comme ça, alors c'est comme ça que tu es. Alors, si déjà il a reçu ce don, alors l'étape suivante, nahalo el. Il est héritier de l'être divin. Parce qu'au fond, la Torah a pour objet de transformer notre être contingent en être nécessaire. Je le dis en hébreu, Efshari ametziut, contingent, Mechuyav ametziut, nécessaire. Je vous ai ici une parenthèse. Et j'en ai parlé un peu, je crois, hier, que finalement, l'être de Jacob devenant Israël est littéralement surhumain. Et cette histoire de Jacob devenant Israël, c'est un peuple entier qui la vit. Le peuple d'Israël. Et le monde entier sait, même s'il ne sait pas se l'avouer, et c'est pas aux Juifs de le savoir d'ailleurs, ça risquerait d'ailleurs de leur donner le vertige, que c'est une histoire surhumaine. Ça veut dire, lorsqu'on dit, mais ce peuple a une histoire à part, eh bien, il faut prendre ça au sérieux, c'est vrai, sans phrase. Et il y a donc beaucoup de raisons que la Torah explique, nous avons eu l'occasion d'en étudier quelques-unes, d'ailleurs je ne veux pas revenir, si vous avez des questions là-dessus, vous me les poserez après, je voudrais terminer d'abord ce texte. Et alors, comment on transforme un don en héritage? Il y a ici l'idée d'un droit à acquérir, c'est toujours la catégorie du mérite. Okay? Alors rappelez-vous la formule que je vous ai répétée hier, c'est d'abord un don en mémoire, un don pour la mémoire, dans le contenu de la mémoire, et l'étude transforme la mémoire en savoir, et le don devient un acquis. Alors ça s'appelle Nahala. C'est bien clair? Vous avez d'autres doublés de ce terme, Moracha. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de Midrashim qui expliquent. Et il y en a un que je voudrais rappeler. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Kilat, Yaakov. La Gemara dit, ne lis pas Moracha et la Meorasa. Ne lis pas la Torah que Moïse nous a ordonnée et l'héritage Moracha de l'assemblée de Jacob, lit et la fiancée de l'assemblée de Jacob. Je vous donnerai une explication très brève de ce midrash, parmi d'autres, bien sûr. L'héritage vraiment, c'est quand il y a mariage. Mais c'est mariage en promesse, fiançailles. Et comment le midrash vient nuancer? Ça veut dire, ne croyez pas que vous l'avez déjà en héritage. Vous l'avez en héritage, mais en héritage de fiançailles. Pas encore en héritage de mariage. C'est clair. Donc, vous voyez, les soi-disant jeux de mots des rabbins du Midrash, eh bien, il faut leur acheter des dragées. Mariage, fiançailles, c'est tragique. Donc. Sheneemar, oui, matana, nachalir. Et après le don, eh bien, c'est pas n'importe quel don, c'est l'héritage de l'être confirmé. Là, il y a un thème théologique, philosophique, kabbaliste très important. Okay? Quand l'homme a le pressentiment que son être est donné à être un être absolu, c'est vrai. Parce que Dieu ne joue pas à créer des êtres contingents. Si Dieu, l'absolu, crée une créature, elle sera absolue. Alors le danger, c'est de croire que c'est déjà arrivé, l'orgueil, le vertige de l'orgueil, je suis Dieu. Vous voyez, c'est une maladie juive. C'est clair. Donc. Et vous comprenez aussi pourquoi le dialogue est tellement impossible avec ceux qui sont de l'autre côté. Moi, je suis persuadé que... Mais c'est très dangereux ce que je vais vous dire. Parce que ça a été utilisé par les inquisiteurs. Et aujourd'hui par le KGB. C'est que l'hérésie, quant à une vérité révélée, c'est de l'ordre de la maladie mentale. C'est débile. Hein. Et je crois, et Michel Price l'a encore répété hier soir, la soupape de sûreté, je ne sais pas si on dit comme ça, contre ce risque du vertige qui rend fou, c'est l'humour. Et il a très bien fait de le dire comme il l'a dit, manquer d'humour, c'est pas sérieux. Et parce que, vous voyez, tout de suite le paganisme qui arrive, la figure hiératique du prêtre des idoles, c'est le croyant qui se prend au sérieux. Alors, à la limite, il se prend pour Dieu. Et finalement, il se laisse diviniser, adorer. Mais à quel point c'est étranger à la sensibilité hébraïque. Il faut se désintoxiquer de cela. De croire que c'est ça la piété. C'est d'avoir ça l'impiété, le contraire. Et je crois que ce qui nous a sauvés, je parle des Juifs, à travers l'histoire, c'est cet humour-là, si spécial, qui est l'humour juif. C'est un humour très profond. Chaque blague juive a toute une philosophie derrière, comme vous le savez. Et au fond, nous ne sympathisons qu'avec les peuples qui sont capables d'humour. Je crois que c'est vrai, mais il ne faut pas se tromper. L'humour, c'est pas l'ironie, et ça, on les a pas aimés, les ironiques. Ken. Vous savez, les Grecs appelaient ça le sel attique. Si vous lisez ça en hébreu, c'est l'esprit de sel attique. L'humour, c'est corrosif. Ken. L'humour, c'est l'ironie. L'ironie, c'est l'humour d'un assassin. Ken. On peut tuer quelqu'un par l'ironie. Et puis, en France, on dit que les Français ont de l'esprit. Et c'est vrai. Mais l'esprit, ce n'est pas exactement l'humour. En France, il y a surtout le calembour, il y a le jeu de mots, les contrepétries, enfin toutes ces histoires-là. Mais ce n'est pas vraiment l'humour. Je crois que c'est les Chinois qui ont vraiment l'humour, et peut-être les Écossais. Il y a un humour anglais, enfin, c'est surtout... C'est Mazal Tov. C'est surtout... c'est un magnétophone qui a de l'humour, lui. Qui est très caractéristique. Et je vous l'avais dit, je crois, une fois, on ne peut voir ça que dans l'étude du Talmud. Il faut vraiment étudier le Talmud pour savoir ce que c'est. Et les talmudistes. Alors, regardez la surprise. Pendant des siècles, vous avez cru que l'humour serait... que le Talmud serait rébarbatif, que c'est... On n'a aucune idée à quel point. C'est la seule joie de l'esprit, c'est de faire du Talmud. Ça dépasse les mots croisés. Vous voyez ce que je dis? Stéphane?
Non, j'ai compris ça hier. Avec les enfants.
Alors, écoutez avec attention. Mais faites pas ça dans les traductions. C'est des fausses pistes. Je vais dire quelque chose, j'ai oublié. Et une des phrases du monde du Talmud, la plus extraordinaire, c'est subitement on arrive sur un verset, et alors un rabbin qui dit, si ce verset n'était pas écrit, on ne pourrait pas le lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait jamais le droit de dire une chose pareille. Par exemple, il y a un verset des prophètes qui dit que Dieu rugit comme un lion. Et alors le Talmud dit, il m'allait à Katou. Bon, si ce n'est pas écrit, on ne peut pas dire. Imaginez, est-ce qu'on va permettre à un théologien de dire que Dieu rugit comme un lion? C'est du paganisme, ça. Ou de l'astrologie. Bon. Alors.
C'est la parole de cet théologien
du Moyen-Âge,
qui ne
savait
rien,
qui
disait, comme dire
à Vitali. Oui, comme dire à Vitali. Top. Et alors. Ça c'est Nahaliel. Vekivan chez Nahaloel, et puisqu'il a Dieu en héritage, Oleligdoula, alors il monte à la grandeur. Chez Nehemar ou Minahaliel Bamot. Vous voyez le piège qu'il y a dans cette grandeur. Est-ce que ça va être un hôtel cachère ou un hôtel. Comment les vous dire? Ou un hôtel des hauts lieux du Baal, okay? Vei migvia et ratsmo, mais si, la gvia et ratsmo, ça veut dire si s'en enorgueillit. Akados baruchu mashpilo, c'est Dieu qui l'humiliera. Un jour il arrivera que ça sera démasqué. Et celui qui a est tombé dans ce piège de l'orgueil, eh bien il se dévoilera qu'en réalité, il n'était qu'orgueilleux et pas sage. Vous avez compris ce que je dis? Et d'ailleurs, l'expérience montre que ça ne trompe pas. Vous savez, je crois que le cas de Spinoza est le cas central. Et quelle que soit cette coquetterie des Juifs dont je parle souvent, de se réclamer des grands hommes qu'on a donnés en cadeau à l'humanité, eh bien, les grands débats sur la philosophie de Spinoza, c'est essentiellement là-dessus. Est-ce que Spinoza était athée ou est-ce qu'il s'est pris pour Dieu? Bon, j'ai beaucoup schématisé Ken, mais lisez Spinoza, et vous verrez. Alors, oui.
Surtout l'éthique.
Surtout l'éthique. Et le traité théologico-politique. Parce que dans le traité théologico-politique, il dévoile qu'il est anti-juif. Oui, oui. C'est clair. Alors.
Il n'y a qu'un
juif
pour critiquer la vie. Comme il a critiqué.
D'accord. Et. Il y avait Freud aussi. Qui a un peu. Voilà, et ce que dit la suite du verset, Umi Bamot Hagai. Et des hauteurs, il tombe dans le Gai, le Gai. Velohod, et pas seulement. Et là, chez Shokfinoto Bekarkar. Bon, finalement, on le projette à terre. On le met là où il aurait dû être, mais humilié. Vous voyez, l'humilité de celui qui est humble n'a pas réussi. Alors, sa punition, c'est qu'il aura l'humilité de l'humilier. Et cette expérience de l'humiliation peut arriver à être sa rédemption pour la suite. Shenemar, Venishkefar, Penish, Ayeshimoun, ça on l'a lu. Veim Hoserbo. Mais s'il regrette, s'il revient, Akadosh Baruchu Magbio, c'est Dieu lui-même qui va le réélever. Shenemar, Kolge, Inase. Toute vallée sera élevée. Voilà, c'est clair, on avait lu jusque-là. Pirouge d'abord, l'explication de cela. C'est d'abord, c'est Kemo Sheidvaer, Lifnese. C'est selon ce que nous avons déjà étudié. Kien ha Torah Shayechet, Rakedmi, Shenlo, Gava. La Torah ne peut concerner que celui qui n'est pas dans le cas de l'orgueil. Veakol Shave Etzlo. Et là, c'est une notion qui se traduit par un terme, l'équanimité. Tout est égal pour lui. L'égalité d'humeur. Ve laze raoui a Torah. À celui-là, la Torah convient. Veot ki a Torah gamken hi efker la olam. Et aussi, cela vient de ce que la Torah est efker pour le monde. Ça veut dire, personne n'a le droit de dire, c'est à moi. Vous vous rappelez que nous avons commencé par une citation, sauf Moïse, à qui Dieu a dit, puisque tu es vraiment un âme, on appellera la Torah, Torah de Moshe. Voilà, on a étudié ça au premier cours. Ulchar, el mitiachese la Torah, qui im mishéou efker gamken, ne peut être lié à la Torah que celui qui, en tant que personne, est aussi efker. Efker, ça veut dire disponible à tout le monde. Dans ce sens-là. Les fiches à Torah, parce que la Torah n'est pas de ce monde-ci, mais que du monde supérieur. Alors c'est là que j'atteins votre question, comme vous m'avez demandé, non c'est monsieur, qu'est-ce que c'est que le monde à venir? C'est bien bouquin. Voilà, je vais vous rappeler un schéma un peu simple. Après ce que nous avons étudié sur ce sujet d'ailleurs. Au fond, ce que Dieu a voulu créer, c'est ce que nous appelons le monde à venir. Un monde vrai. Un monde qui soit un monde. Et ce monde à venir est appelé le Rolam Mahashava, Mahashavet Aboré, le monde tel qu'il est dans le projet du Créateur. Et dans le projet du Créateur, c'est un monde absolument vrai. Ce serait blasphématoire de penser que l'intention du Créateur était de créer un monde en chaos. Il y a des nécessités, des raisons qui expliquent pourquoi ce monde vrai, qui existe déjà, du point de vue du projet, et ramener, le kabbaliste appelle ça le tzimtzum, à des dimensions de caricature qui sont ce monde-ci du monde à venir. Il est ramené à une dimension, je cherche un terme en français, aidez-moi à le trouver, rétracté, et ça se réduit, ratatine. Okay. Vous voyez un peu là. La pocha grecque. En plus, tout ça sont des harmonies que vous pouvez ajouter, mais l'idée est que ce monde de l'absolu est diminué dans le monde relatif qui est ce monde-ci. Et par conséquent, pour la conscience de chacun dans ce monde-ci, qu'est-ce que ça peut représenter le monde à venir? Eh bien, j'essaie de le décrire, je crois que c'est l'essentiel, je me réfère à une Gemara, c'est que c'est le monde tel que chacun aurait souhaité qu'il soit, c'est ça son monde à venir. Et c'est cela seulement qu'il pourra obtenir, pas plus, pas moins. Parce que c'est le monde à venir pour lui, à son niveau, à son envergure. Et alors ça, c'est disponible à tous. Et j'essaie de décrire ça un peu logiquement, intellectuellement. Si on a compris cette équation, ce monde-ci, c'est ce monde-ci d'un monde à venir. Ce monde-ci du monde à venir. Okay. Alors, attendez, je voudrais finir la description. Et par conséquent, pour chacun, l'expression à laquelle je me réfère, c'est Asa mitzvah achat kana olamu. Celui qui a réalisé une vertu a acquis son monde. Chacun a son monde. Qu'est-ce que ça veut dire son monde? Ça veut dire le niveau qui lui appartient par rapport au monde à venir. Et je voudrais essayer de vous le décrire maintenant dans l'expérience existentielle que j'ai commencé à décrire.